Anice et Georges de Loguellé, bonjour.
Bonjour.
Le 15 novembre, dans la ville martyre d'Aline Dao, au centre du pays, au moins 60 personnes, dont deux prêtres, ont été tuées lors de combats entre un ancien groupe Séléka, l'UPC, et des milices anti-Balaka. Est-ce le retour à la case départ ?
Mais pendant quelques mois, je veux dire depuis juin, il y avait une relative accalmie due un peu à une combinaison de facteurs. La Séléka qui était en train de se réorganiser et de se réconcilier. De l'autre côté, un début de déploiement des FACA. Donc pendant quelques mois, nous avons observé une petite accalmie et puis là, ça s'embrase. Avant, à Aline Dao, il y a eu Bambari, il y a eu Batangafo et alors là, à Aline Dao, ça a été une catastrophe. Vous savez, des gens qui sont brûlés vifs, des prêtres tués, ça a été vraiment un massacre. Alors que ce qui a déclenché l'étincelle, c'est juste l'assassinat d'un peul. Donc vraiment, ça ne méritait pas cette suite.
Et comment expliquez-vous cette résurgence de la violence et puis une telle cruauté même?
Mais je pense que le gouvernement s'est berné d'illusions en pensant que tous les problèmes étaient réglés et donc des précautions n'ont pas été prises. Un, pour accélérer la feuille de route de l'Union africaine. Deux, pour vraiment mettre en place un système d'alerte pour permettre que le déploiement des FACA soit plus efficace. Et enfin, mettre en place un véritable système de collaboration pratique sur le terrain entre les FACA et la MINUSCA. Dans le cas d'Aline Dao, les soldats de la MINUSCA n'ont pas du tout bougé. Ils ont été attentistes. Vous savez, il y a un problème dans ces règles d'engagement de certains contingents. Il y a un fossé entre le mandat de la MINUSCA qui l'oblige à protéger les populations et les règles d'engagement de certains contingents où ils n'interviennent que s'ils sont directement attaqués. Et dans le cas présent, les contingents n'ont pas du tout bougé.
Et c'est plus la faute aux FACA centrafricaines ou à la MINUSCA des Nations Unies?
Non, les FACA n'étaient pas déployés à Aline Dao. Les FACA sont plutôt à Bambari. Vous savez, les FACA, pour le moment, ceux qui sont formés et armés ne sont pas à grand nombre. Donc, ils sont déployés par petit nombre dans certaines localités pour un peu servir de force de dissuasion. Mais dans le cas d'Aline Dao, il n'y avait pas de FACA.
Alors, vous dites qu'il faut accélérer la feuille de route de l'Union africaine qui est médiatrice dans votre pays. Mais en même temps, il y a une médiation parallèle de la Russie. Alors, on est un peu perdu.
Nous, au niveau des partis politiques, nous sommes réunis avec la société civile. Nous avons présenté un mémorandum. Ça fait 16 mois que cette feuille de route a été signée. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et certainement parce que de part et d'autre, il n'y a pas une réelle volonté d'avancer positivement sur cette feuille de route. Donc, nous avons souhaité que nous, partis politiques et la société civile, nous puissions être partie prenante parce que nous tournons en rond. Maintenant, s'il y a un pays qui veut de manière bilatérale donner un coup de pouce à cette feuille de route, je pense que c'est plus positif de discuter directement avec la présidence de la Commission de l'Union africaine et d'agréger les forces au lieu qu'il y ait plusieurs initiatives.
Il faut agréger les médiations.
Oui, je pense. Nous l'avons écrit et nous l'avons dit aux uns et aux autres.
Et quand le président Touadéra dit sur RFI que le seul cadre de négociation c'est l'Union africaine, vous le croyez ?
Écoutez, il faut plutôt le prendre au mot. C'est-à-dire, s'il le dit en tant que président de la République, il faut donc que lui, toujours en tant que président de la République, puisse voir avec les bilatéraux qui veulent rentrer dans la négociation pour que ça se fasse dans un cadre unifié.
Et la présence militaire russe à Bangui, qu'est-ce que vous en pensez ?
Les Russes sont arrivés avec l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies pour former les FACA au maniement des armes. Maintenant, le président de la République, le gouvernement ont certainement démarré des négociations bilatérales avec la Russie. Nous souhaitons simplement que les contrats, les accords qui sous-tendent cette situation soient mis sur la place publique pour nous permettre, notamment à nous députés, de comprendre ce qui se passe.
Alors, il n'y a pas avec ses instructeurs, il y a aussi une société de sécurité privée russe qui opère dans le pays. Et la France dénonce, en pensant très fort à la Russie, toute manipulation intéressée de puissance opportuniste. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous ne souhaitons pas que le gouvernement encourage une compétition négative de puissance en Centrafrique. Nous avons besoin de la France, nous avons besoin de la Russie et on donne l'impression de commencer à établir des préférences alors que nous avons besoin de tout ce monde. Et donc moi, je pense que c'est malsain de la part d'un gouvernement aussi faible qui gère un pays aussi démuni de créer les conditions pour ce type de querelle alors que nous avons besoin de tout le monde.
Est-ce qu'en retirant leur dispositif Sangaris, les Français n'ont pas créer un appel d'air dont profitent aujourd'hui les Russes?
Je me souviens quand le ministre français de la Défense était à Bangui et qu'il est passé à l'Assemblée nationale, j'avais pris la parole pour lui dire « Monsieur le ministre, vous partez beaucoup trop tôt ».
Et ça, c'est ce que vous avez dit à Jean-Yves Le Drian il y a 2 ans à Bangui.
Oui, à la tribune de l'Assemblée nationale.
Ce 17 novembre, les autorités centrafricaines ont livré à la Cour pénale internationale un chef de guerre anti-Balaka, Alfred Yekatom Rambo, qui s'était fait élire député en 2016. C'est une première. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ben, je pense qu'il faut que les chefs de guerre sachent que s'ils continuent à perpétrer des crimes sur les populations, il y a la justice qui peut frapper. J'espère qu'il n'y aura pas que Yekatom, mais qu'il y en aura d'autres pour que effectivement, ce soit dissuasif et que les autres qui observent ça puissent demander à leurs hommes d'arrêter de massacrer les populations et qu'on aille vers un dialogue véritable.
Donc pour vous, le président Faustin Archange Touadéra a voulu adresser un message à tous les présumés criminels de guerre et c'est une bonne initiative, vous la saluez.
Oui, c'est-à-dire que le cas de Yekatom était du flagrant délit. Je veux dire que son arrestation n'a pas été très compliquée. Mais il y a certains chefs de guerre qui sont invités à Bangui, au palais de la Renaissance, qui discutent avec le président et qui, de ce fait, pensent qu'ils ont acquis le passeport de l'impunité. Donc, le geste que le gouvernement a fait, il faut que ce geste soit perçu par tous les autres comme quelque chose qui peut les frapper à tout moment.
La Centrafrique vient de mettre en place une cour pénale spéciale composée de magistrats nationaux et internationaux pour juger les criminels de guerre. Du coup, certains comprennent mal ce transfert à La Haye, aux Pays-Bas.
Je pense que les questions de compétence des différentes juridictions, à la limite, n'intéressent pas la population, le peuple que nous sommes.
Et derrière ce transfert, n'y a-t-il pas Madame la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, qui, après le fiasco Jean-Pierre Bemba, a peut-être voulu rassurer les Centrafricains sur sa volonté de juger les crimes commis dans leur pays ?
Je ne donnerai pas mon avis sur Jean-Pierre Bemba. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la situation de la population centrafricaine. Et tout le monde attend que cela cesse.
Est-ce que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba n'a pas été un traumatisme pour beaucoup de vos compatriotes, notamment beaucoup de femmes de Bangui ? Et est-ce que ce transfert aujourd'hui d'un nouveau criminel de guerre présumé ne met pas un peu de baume au cœur ?
Vous savez que les populations vivent un tel traumatisme depuis 2013 que je ne sais pas s'il y a des éléments qui traumatisent beaucoup plus que d'autres, mais c'est un stress permanent dans lequel vivent les populations.
Le 26 octobre, le député du quartier PK5 de Bangui, Karim Mekassoua, a été destitué de son poste de président de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi le président Touadéra l'a-t-il fait tomber, à votre avis ?
Écoutez, c'était un problème interne à la majorité présidentielle. Je ne sais pas s'il y a une insuffisance de dialogue entre le chef de l'exécutif et celui du législatif. Je ne sais pas s'il y a une perte de confiance. Je ne sais pas si ça rentre dans une logique de bagarre d'ego, de compétition entre les groupes parlementaires. Bref, vous savez que les députés de la majorité, ils sont extrêmement nombreux. Donc, arriver à destituer le président de l'Assemblée nationale, ce n'était pas très compliqué.
Est-ce que le départ de Karim Mekassoua du perchoir ne peut pas compliquer la cohabitation entre chrétiens et musulmans ?
Je ne pense pas parce que le président de l'Assemblée nationale avait été élu par une écrasante majorité de députés chrétiens. Vous savez, les musulmans à l'Assemblée nationale, ils sont à peine une dizaine sur les 140. Donc, son élection, il ne le doit pas aux musulmans. Donc, je pense pas que cela ait un impact sur cette question religieuse.
Anissé Georges Deloguélé, vous avez mis Faustin Archange Touadéra en ballottage en 2015. Est-ce que vous serez candidat en 2020 ?
Mais 2020, c'est encore loin. L'urgence aujourd'hui, c'est qu'il y ait la paix et la quiétude dans le pays. Donc, ce serait malsain de commencer à penser aux élections maintenant. Le président de la République, au quotidien, à la radio, à la télé, partout, ses partisans ne parlent que de 2020, ce qui est obscène parce que tout un pays est en stress maximum et les gens ne parlent que de leur réélection. Moi, je ne suis pas dans cette logique.
Mais vous n'excluez pas d'être candidat.
Nous verrons le moment venu parce que je suis chef de parti et la vie politique est longue.
Anissé Georges Deloguélé, merci.